23h29 sur Europe 1. Vous êtes sur votre libre antenne. Vous pouvez continuer à nous appeler au 39-21, 50 centimes d'euros la minute, ou nous écrire, comme vous le faites nombreuses et nombreux ce soir, pour supporter Brigitte et pour lui conseiller de ne rien lâcher auprès de ce locataire qui lui demande à compte à rebours, hein, il lui demande, pas à compte à rebours, avec du recul, 5 années d'indexation, d'augmentation de loyer, ce qui est visiblement strictement hors la loi. Merci en tout cas pour tous vos SMS, merci à Charles, à Valérie, à Irène, à Marie, à Marguerite, à Thierry, à Jean-Charles et à Valérie, encore une Valérie, et à Marlène bien évidemment. On accueille une autre Brigitte, c'est la soirée des Brigitte. Bonsoir Brigitte.
Bonsoir.
Bonsoir. D'où nous appelez-vous Brigitte ?
D'Espagne.
D'Espagne, d'accord.
Oui.
Vous voulez nous dire où ou vous préférez garder ça ?
Dans la province de Tarragone.
De Tarragone. C'est où exactement Tarragone ?
À 120 km de Barcelone. Vers le bas, à côté de, pour les gens qui viennent souvent en vacances, Cambrils, Salou.
D'accord.
Tout près, dans ces environs-là, sur la côte.
D'accord, vous êtes sur la côte vous-même ?
Non, moi je suis dans la montagne.
Dans la montagne.
Isolée, au milieu de rien du tout.
D'accord, bon. Ça doit être très beau.
Oui, oui, c'est assez, enfin c'est calme, c'est tranquille, c'est
je
calme,
sens comme
c'est
dans
agréable.
Dans ce oui, une petite pointe de j'en ai peut-être un peu marre d'être là-bas, non ?
Non, pas du tout.
Bon, alors.
Non.
Vous voyez, je
pas
me trompe.
Du tout, je suis très bien. Non, je suis très bien.
Vous êtes très
et
bien.
Je voudrais pour rien au monde quitter cet endroit.
Très bien. Alors, qu'est-ce qui vous amène, Brigitte ? Dites-moi.
Ben, en fait, je voulais parler parce que ça, je pense que ça pourrait peut-être aider certaines personnes. Du moins, j'espère que non, parce que bon, mon cas n'est pas si réjouissant que cela, mais ça pourrait peut-être aider des personnes. On pourrait peut-être m'aider à me donner des réponses à des questions qui restent toujours ouvertes. En fait, c'est un problème entre ma mère et moi,
oui.
Que j'ai depuis que j'ai l'âge de 4 ans, que j'ai toujours eu avec elle. On a un problème relationnel. Mais ce qui me pousse à vous parler aujourd'hui, c'était pour expliquer l'histoire qui s'était passée donc il y a 10 ans maintenant. C'est qu'en fait, il y a 10 ans, j'ai appris que ma mère était la maîtresse de mon ex-mari.
Oula, d'accord. Il y a combien de temps ?
Il y a 10 ans. Enfin, plus de 14 ans maintenant
14
que je
ans.
L'ai appris. Mais jusqu'en 2010, bon, en dehors du fait qu'elle a été sa maîtresse pendant 7 ans, que j'ai rien vu, que j'ai rien soupçonné, parce que bon, il est très difficile quand votre mère dit à mon beau-fils préféré, celui que j'aime le plus au monde, vous n'allez pas vous imaginer le pire. Une belle-mère peut, je pense, de temps en temps avoir ce genre de réaction vis-à-vis de son beau-fils et dire c'est mon beau-fils préféré.
Oui, ça, ma belle-mère donc, le dit de moi. Donc, mais,
ah ben voilà.
Voilà, c'est quelque chose de tout
c'est
à fait.
Pour ça, voilà, c'est pas pour ça que votre épouse pense à mal.
Absolument pas.
Voilà, ça peut être normal. Il y a des belles-mères qui considèrent leur beau-fils comme leur fils. Et voilà. Donc, j'ai jamais vu, en fait, le mal. J'ai jamais rien vu, jamais rien entendu jusqu'à ce que je l'ai découvert, évidemment, et c'était en 2006. Mais le pire de l'histoire. Bon, à part le fait que j'ai découvert ça, c'est qu'après, pendant 4 ans, ma mère a continué à me harceler, à m'insulter, à faire de moi la femme de son amant.
D'abord.
Sans penser que j'étais la fille.
Oui, de toute façon, ça doit être terrible de vivre ce que vous avez vécu. Mais tout d'abord, comment se comportait-elle avant tout ça ? Quelle mère a-t-elle été ? Vous m'avez dit que depuis l'âge de 4 ans, elle était partie avec un autre homme, hein, je crois, c'est ça ? Elle est,
oui.
Elle vous a abandonné ou comment ça s'est passé ?
Elle est partie donc, quand j'avais 4 ans, elle m'a laissée avec mon père.
Oui.
Elle est partie du jour au lendemain sans rien dire, ni à mon père ni à moi. Enfin bon, moi j'avais que 4 ans, bien sûr. Et pendant 2 ans. Et après 2 ans, elle est revenue comme si de rien n'était. Pour revoir sa fille, évidemment, mon père qui a galéré à l'époque lui a dit non, tu la reverras plus. Enfin bon, elle m'a vue, pas vue. Puis À l'âge de 6 ans, en fait, mon père m'a déposé chez ma grand-mère maternelle en disant à ma grand-mère, voilà, Brigitte est là, ou vous la prenez maintenant, ou vous ne la reverrez plus jamais. Donc ma grand-mère, qui était à l'époque dépressive de ne plus voir sa petite fille, m'a prise. Et j'ai été élevée par ma grand-mère et ma marraine, donc la sœur de ma mère. Et ma mère venait, repartait, elle vivait à Marseille, elle vivait en Belgique, parce qu'à l'époque je vivais en Belgique, je suis belge à la base.
Oui.
Et donc elle venait, elle repartait, elle venait, elle repartait. Mais les relations, je ne sais pas si c'est le fait qu'elle m'ait abandonnée pendant 2 ans, n'ont jamais été... J'aimais ma mère, je pense que j'aimais ma mère, mais j'avais pas besoin de la voir. Elle, quand elle partait, j'étais bien. Quand elle revenait, j'étais mal parce que c'était un peu un tyran à la maison.
Oui.
Bon, elle travaillait la nuit. Elle faisait le métier de la nuit. J'ai rien contre ce métier, mais bon, ça dépend les raisons pour lesquelles on le fait aussi.
Le métier de la nuit, qu'entendez-vous par là ?
De la prostitution.
D'accord.
Donc, que j'ai appris quand j'étais à l'entrée de l'adolescence, que j'ai très mal pris, évidemment, parce qu'on n'est jamais très heureux d'apprendre ce que sa mère fait.
Non, non, je suppose.
C'est pas facile. Donc, est-ce que c'est tout ça qui fait que bon, ben, vous avez une relation avec votre mère qui n'est pas très fusionnelle, comme toutes les filles aimeraient avoir avec leur mère ? Ou comme j'ai vu autour de moi, des mamans qui sont géniales avec leurs filles, ben moi, j'ai jamais connu tout ça. Mais bon, n'empêche que quand j'ai décidé de partir en Espagne, parce que mon ex-mari était espagnol, on est venu vivre en Espagne, on a ouvert un bar-restaurant et un petit supermarché. Ma mère vivait à l'époque à Marseille. Et j'avais dit à mon ex-mari, ben, ce serait bien, vu qu'on a ouvert 3 commerces en même temps et qu'on n'est que 2. Ma mère, à l'époque, qui faisait des ménages sur Marseille, j'avais dit à mon ex-mari, ben, si on faisait venir ma mère ici, et comme ça, ben, elle pourrait nous aider dans le supermarché. Et je voulais faire ça pour elle, en plus, pour pas qu'elle arrête de faire ses ménages et qu'elle fasse autre chose de sa vie.
Oui.
Et bon, quand je lui ai proposé, elle n'a pas hésité, elle a dit « Ok, j'arrive ». 15 jours après, elle était là avec ses meubles, tout son attirail. Elle s'est installée chez nous. Elle prétendait, parce que bon, ma mère et moi, on ne se voyait pas pendant 5-6 mois, puis on se revoyait pendant 2 mois, puis on ne se revoyait plus. Là, elle était revenue pour me dire qu'elle avait changé, qu'elle avait compris, que j'étais sa fille, que enfin tout son cinéma. Donc, quand elle est venue s'installer en Espagne, elle est venue vivre chez nous, à la maison, évidemment, puisqu'elle n'avait pas de logement. Et ça a duré 15 jours. En tout et pour tout, ça a duré 15 jours. Après 15 jours, elle a recommencé son cinéma. En fait, c'est une femme qui aime monter les montagnes les unes contre les autres, qui aime mettre un peu le bazar, comme on dit ça dans les familles, qui va monter une personne contre l'autre. Bon, moi, j'avais un fils. Enfin, j'ai toujours mon fils. J'ai un fils et j'avais mon neveu qui vivait avec nous. Ils ont le même âge, les 2 garçons. Et elle disait, voilà, ton fils, il a fait ça, ou l'autre, il a fait ça, ton mari, il a fait ça. En fait, ça a vraiment créé une ambiance impossible qu'au bout de 15 jours, enfin, j'ai dit, c'est pas possible de vivre comme ça. On était tous occupés à se regarder en coin, de savoir qui avait fait une bêtise ou pas. Donc, je lui ai demandé de partir, de trouver un appartement. Je lui ai trouvé un appartement au-dessus du commerce qu'on tenait. Elle est allée vivre dans son appartement, donc ça s'est un petit peu calmé. Et puis voilà, elle a continué à travailler avec nous. On travaillait à 3. Et puis ça s'est déclaré apparemment quelques mois après qu'elle soit arrivée en Espagne. Je ne saurais jamais exactement vraiment la date parce que mon ex-mari est décédé.
Oui.
Et elle, ben, on ne se parle plus forcément. Et ça a dû commencer quelques mois après qu'elle soit arrivée. Mais je vous jure, je n'ai rien vu.
Vous n'avez rien vu ? Et quel âge avait-elle à ce moment-là, en fait, quand tout ça s'est passé ?
Mais moi, j'avais 44, 45 ans, donc elle en a 20 de plus, 64, 65.
D'accord. Donc votre mari avait le même âge ?
Il avait 50 plus que moi, donc 15 ans moins qu'elle.
D'accord, donc il avait 50 ans à peu près.
Voilà, mais il faut savoir que ma mère a toujours été une femme qui est sortie avec des hommes de mon âge, toujours. Je les ai tous, j'en ai connu deux, ils avaient tous un an de moins que moi. Donc, elle, c'était sa spécialité. Mais bon, vous n'allez jamais imaginer qu'une maman, même si ça a toujours été conflictif entre elle et moi et qu'on a toujours eu des problèmes l'une et l'autre parce que probablement vu mon passé avec elle. Et c'est la question que je me pose et que j'ai posée à des dizaines, mais j'ai vu des dizaines de psys, j'ai vu de tout quand ça m'est arrivé. Comment est-ce qu'on peut faire ça à sa fille? Ça, je n'ai jamais eu cette réponse.
Bon, il faut avoir un esprit bien particulier pour oser faire ça à sa fille. Il faut avoir
un
esprit particulier.
Mais le pire, c'est faire ça à sa fille, continuer à travailler avec elle, la regarder, rigoler avec elle, faire comme si de rien n'était. C'est machiavélique hein, quand vous pensez...
Complètement.
Et d'après certains psychologues que j'ai vus à l'époque, parce que j'essayais de comprendre, ils m'ont dit qu'en fait, c'était une psychopathe. Il y a plusieurs formes de psychopathie et c'était une psychopathe et qu'elle ne se rendait même pas compte du mal qu'elle faisait. Je dis parce que... Enfin, je ne sais pas, il ne faut pas être normal pour faire ça à sa fille. Parce que si on voit les années... je vous dis même qu'on a été un peu en guerre, elle et moi, je suis sa fille, c'est ma mère, je suis son sang, quoi. Je veux dire, comment est-ce qu'on peut en arriver à faire ça? Parce que si elle était tombée amoureuse de mon ex-mari, on peut se dire, bon, ben, l'amour, des fois, peut faire certaines choses qu'on ne contrôle pas. Mais ce n'était même pas le cas. Ce n'était même pas de l'amour, parce qu'elle n'a jamais aimé personne, à part son fils, qu'elle a eu, qui a 6 ans de moins que moi. Elle n'a jamais aimé personne, donc pourquoi avoir fait ça? Et ça, c'est la seule question que je me pose, si quelqu'un a une réponse ou si quelqu'un a vécu ce genre de situation. C'est pour ça que j'ai dit en début, j'espère que non, parce que c'est pas... Bon, elle a détruit ma vie, hein. Elle m'a détruite, hein.
Oui.
Et quand ça m'est arrivé, j'ai dû me relever de ça toute seule. En fait, je n'ai pas quitté mon ex-mari. Je suis restée avec lui. Parce que 2 mois après avoir eu le choc d'avoir découvert ce qui s'était passé, j'ai eu des problèmes de souffle dans l'oreille.
Oui.
Donc, j'étais pas bien. Je déclinais parce qu'on n'arrivait pas à trouver ce que c'était. D'ailleurs, j'ai dû aller à Paris voir un neurochirurgien qui a dit au neurochirurgien de Belgique de faire une ponction lombaire pour voir que ça pouvait probablement venir de là. Et en fait, c'était ça. J'étais en train de faire une poche dans le cerveau de liquide encéphalique qui grossissait et qui comprimait une veine qui passe derrière l'oreille et qui me faisait un souffle dans l'oreille.
L'angoisse, donc, le stress peut causer beaucoup, beaucoup de choses, provoquer... On dit souvent que certains cancers sont provoqués par un état de stress permanent comme ça. Et il y a de grandes chances, en tout cas, que vous ayez fait une réaction physique à cette... cet affront, hein, cette blessure. On va marquer une petite pause, si vous le voulez bien, Brigitte, et puis on va continuer d'évoquer tout cela ensemble après la pause. D'accord. À tout de suite.
Oui.
Olivier Delacroix est à votre écoute sur Europe 1.
23h43 sur Europe 1. Vous êtes sur votre libre antenne et vous pouvez continuer à appeler le 39-21, 50 centimes d'euros la minute. Brigitte, on évoquait donc ces problèmes de santé que vous avez déclenchés et ça s'est réglé comment tout ça?
Ben donc, on m'a opérée en urgence. On m'a placé une valve en fait, avec une dérivation péritonéale pour enlever cette poche de liquide encéphalique que j'avais. Le problème, c'est qu'à l'époque, je n'ai pas osé. Maintenant, je peux parler de ce qui m'est arrivé sans pleurer, sans faire des crises d'angoisse. Mais à l'époque, ça faisait 2 mois que je venais d'apprendre ce qui s'était passé. Quand les neurochirurgiens m'ont posé des questions, ils m'ont envoyé des psychiatres. J'ai pas osé dire ce qui m'était arrivé parce que j'avais honte, en fait. Mmh. Moi, j'avais honte de dire que mon mari couchait avec ma mère. Donc, je ne saurais jamais si c'est suite à ça. Je pense bien que oui, parce que 2 mois après, jour pour jour, je me retrouve avec ça dans la tête, je dois être opérée, on me met une valve dans le cerveau, donc j'ai dû vivre comme ça. Mais un exemple, après ma mère, c'est ce que je disais, donc ça s'est arrivé en 2006, on m'a opérée en 2007. Et pendant 3 ans, ma mère m'a harcelée, elle m'a démontée, j'ai vu des mails, parce que c'est comme ça que j'ai découvert leur relation, les mails, tout ce qu'elle écrivait dans les mails, parce qu'elle, à l'époque, vivait en Espagne, nous, on était repartis vivre en Belgique, donc ils faisaient tout par téléphone, par mail. Et je ne sais plus ce que je voulais vous dire là-dessus. oui.
Bon, c'est pas grave, donc, c'est pas grave. Qu'est-ce que en fait, là, quand vous étiez malade, elle était où? Elle était restée avec votre mari?
Oui, c'est ça. Elle était en Espagne. Nous, on était en Belgique. Donc, j'ai été opérée en Belgique. Mais elle envoyait des mails. Et en fait, elle m'a harcelée donc, pendant ces 3 ans. Et elle me disait, oui, j'ai appris pour ton opération. Ça me fait plaisir de savoir que chaque fois que tu auras mal de tête, tu penseras à moi. C'est le genre de phrase que je recevais, en fait, de ma mère. Et c'est ça le pire dans l'histoire. C'est qu'elle m'a vraiment considérée comme la femme de son homme à elle. Donc, elle me faisait vivre un enfer. Elle m'a insultée de tous les noms. Tout ce qu'elle a pu trouver à dire, elle le disait par mail.
Parce qu'elle est tombée amoureuse. Elle est finalement tombée amoureuse de votre mari, sans doute.
Non.
Non ?
Absolument pas. Non. Parce que quand on voit les derniers mails, apparemment, il lui aurait demandé de l'argent à elle, à prêter, qu'elle aurait prêté. Et tout ce qui l'intéressait, c'était de récupérer l'argent qu'elle lui avait prêté.
Et ne me dites
et
pas
elle
que c'est
le menaçait.
Vous. Ne me dites pas que c'est à vous qu'elle l'a réclamé quand même, l'argent.
Non, non. Ah bon. Non, pas à moi. Non, ça non. Mais elle menaçait que s'il ne remboursait pas, elle allait parler. Elle allait tout me raconter à moi, parce que moi, j'étais toujours au courant de rien. Évidemment. Enfin, après l'opération, oui. Mais avant l'opération, je ne savais rien. Après l'opération, oui, puisque c'est arrivé 2 mois après que j'ai découvert. Mais j'ai trouvé une cinquantaine de mails dans la boîte de mon ex-mari. Je les ai tous lus. Il y avait des trucs que c'était impossible à lire. Enfin, je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas d'où ça venait. Je ne reconnaissais ni ma mère ni mon ex-mari. J'ai mis ces mails dans le coffre de ma voiture que je n'ai pas ouvert pendant 2 mois. Mais c'est plus... Ce que je ne comprends pas, c'est déjà de 1, comment on peut faire ça à sa fille, et de 2, comment est-ce qu'on peut continuer à la harceler pendant des mois et des mois et des mois jusqu'à me menacer, que j'ai dû déposer plainte à la police. La police est allée la voir, elle a expliqué ces choses, c'est passé en justice, et en justice, j'ai été déboutée. On m'a dit que c'était une histoire de famille, que je devais régler ça avec elle. Alors je me dis... Voilà, ma mère a fait de moi, entre guillemets, une victime. Elle a brisé ma vie,
oui.
Elle a brisé mon mariage. Et personne ne reconnaît ça.
Mais vous avez porté plainte contre elle pour quoi, en fait? Parce que, bien évidemment, elle vous a fait beaucoup de mal. Mais est-ce que la justice espagnole ou belge condamne l'adultère, comme ça, d'une mère qui fait ça? À mon avis, non.
Ben, je ne sais pas. Mais j'ai déposé plainte parce qu'elle menaçait mes chiens. En fait, il faut savoir qu'après tout ça, j'ai pris des chiens des Terre-Neuve et auxquels je tenais énormément. Et elle me disait, j'ai vu que tu avais des beaux chiens, mais ça ne va pas durer longtemps, ou des menaces comme ça.
Mais c'était vraiment quelqu'un de mauvais. Hein.
Ah oui, oui, oui. Donc, devant la peur qu'elle s'en prenne à moi, ce n'était pas grave, parce que moi, je pouvais me défendre. Mais devant la peur qu'elle s'en prenne à un de mes chiens, j'ai déposé plainte contre elle. Et parce que, à mon travail, à l'époque, je travaillais encore dans une société, elle avait envoyé sur l'adresse mail de la boîte les photos de ses débats, avec mon mari. Donc, tout ce qu'elle faisait avec lui, elle avait filmé, elle avait fait des photos de leurs actes sexuels, elle avait envoyé ça sur la boîte mail de la société. Ce qui fait que quand ils sont arrivés le matin, ils ont tous ouvert leur ordinateur, il y avait des mails, il y avait des photos de pas d'elle, on ne voyait pas son visage, mais on voyait mon ex-mari et tous ces trucs-là. Et j'ai dit, c'est bon. Et alors, elle mettait un petit commentaire à mon patron. Regardez ce que fait le mari de votre secrétaire, enfin, ce genre de choses, quoi. Donc là, j'ai dit, c'est bon, on va arrêter là, on va aller déposer plainte pour que ça cesse, parce que je recevais à chaque anniversaire, je recevais mon lot de vérité. Chaque semaine, je recevais des menaces. Donc, j'ai déposé plainte. Parce que le harcèlement est punissable en Belgique, hein, ça oui. Hein.
Ah oui, c'est punissable. Mais vous savez, comme le dit Carlotta au 739-21, votre mère devait être totalement étrangère à la bienséance. Donc, on dirait que tout ce qu'elle vous faisait, finalement, n'avait aucune importance pour elle. Alors que tout ce qu'elle vous faisait, tout ce qu'elle vous disait était de loin, mais inacceptable. Inacceptable. Ben oui. Mais pour elle, visiblement, pas de limite.
Non, elle trouvait ça normal, d'après ce que les psychiatres et tout le monde dit. Pour elle, elle ne voyait même pas le mal là-dedans. Pour elle, hein, dans sa tête à elle, il n'y avait pas de mal à ce qu'elle faisait, ni à ce qu'elle disait. C'était normal. C'est sa façon d'être. Bon, elle a dû avoir des problèmes, je suppose, dans son enfance aussi, qui l'ont amené à être comme ça.
Il y a de grandes chances.
Mais bon, moi j'ai un enfant et je n'ai pas reproduit à mon fils ce que ma mère m'a fait à moi, parce que sinon, ce serait une catastrophe. Quoi. On ne s'arrête plus alors. Hein. Mmh. Et le fait de ne pas être reconnu, ça, c'est très dur. Parce que, bon, il y a l'opération, il y a le fait que je ne vivrai plus jamais comme d'habitude. J'étais une plongeuse. Pas professionnel, et c'est fini, je ne peux plus plonger, je ne peux plus faire certains sports, je peux plus. Le fait d'avoir une valve dans la tête, vous faites plus ce que vous voulez. Hein. Et tout ça pour qui ? Pour ma mère. Alors après, quand le juge vous dit, vous déboute en disant c'est une histoire de famille, il faut vous débrouiller entre vous.
Elle est venue, au procès ?
Non, il n'y a pas eu de procès. En fait, la police est venue me voir, la police est allée la voir, lui poser des questions par rapport à la plainte. Elle s'est défendue en disant que je lui répondais quand elle m'envoyait un mail. Oui, évidemment que je lui répondais, je n'allais pas rester les bras croisés à attendre qu'elle fasse toutes ces bêtises. Et en fait, avec les deux témoignages, ils envoient ça au juge et c'est le juge qui décide si on ouvre un dossier ou pas. Et là, ils ont dit, ben non, c'est une histoire de famille, elles ont qu'à se débrouiller entre elles deux. Donc, vous vous dites, mais jusqu'où ça doit aller pour que ce soit reconnu par quelqu'un ? Voilà, vous avez à l'époque, mon ex-mari était encore vivant, qui lui s'en fout, la mère qui fait du mal.
Il en disait quoi, votre mari, lui ? Il était mal de tout ça, ou qu'est-ce que... Enfin, il était quand même au cœur de l'affaire, lui.
Oui, mais... En fait, ma maladie, la valve dans ma tête, ça a duré 2 ans. En 2007, quand on m'a opérée, puis on a dû me réopérer le mois d'après, le temps que je me récupère, que je me remette sur pied, ça a duré en tout 2 ans. Il est resté avec moi et moi, je suis restée avec lui.
Il continue sa relation avec votre mère, vous croyez ?
Ben, il disait que non, mais oui. Après, j'ai appris que oui. Mais lui disait que c'était terminé. Mmh. Mais je vous dis, après, oui, j'ai appris qu'ils étaient toujours ensemble. Je ne sais pas où ils étaient pendant que j'étais à l'hôpital ou ce qu'ils faisaient pendant... Il était là, tous les matins, il était là à l'hôpital. Tous les soirs, il était à l'hôpital. Il s'est occupé de moi quand j'ai dû me rétablir. Mais bon, je suis restée pour ça, parce que l'opération à la tête, vous ne vous remettez pas comme ça. Et il me fallait du temps pour m'en remettre. Donc, on est restés ensemble, malgré que... Le jour où je l'ai appris, c'est comme si tout l'amour que vous avez pour cette personne tombe dans vos chaussures.
Oui, hein. Bien sûr, bien sûr.
D'un coup, ça tombe. Mais voilà, et 2 ans après l'opération, je lui ai dit que je ne voulais plus rester, que je ne pouvais pas passer au-dessus de ça. C'était très, très difficile. Et on s'est séparés. Et là, je suis restée 2 ans toute seule à essayer de me... Et c'est là que j'ai pris aussi... mes chiens, et que j'ai commencé à faire autre chose de ma vie, essayer de m'en sortir, ben ça a été très, très dur. Hein. Je ne vous cache pas que j'ai souvent pensé à partir, et c'est bon que j'avais mes chiens qui m'ont retenu parce que mon fils vivait en Espagne, moi j'étais en Belgique. Et puis j'ai eu la chance de rencontrer une autre personne 2 ans après, qui je ne sais pas, je crois qu'il écoute dans l'autre pièce là-bas, hein, en direct, à qui je dois tout. Franchement, à qui je dois tout, mais qui a ramé. Je peux vous dire qu'il a ramé, le pauvre, pendant 1 an et demi. Il a morflé en fait pour tout ce qui m'était passé avant. Ouais.
Mais il doit vous aimer. Donc il est venu dans votre vie pour ça, pour vous sauver.
Je ne sais pas, mais en tout cas, il m'a sauvée, c'est sûr.
Mmh. Et votre mère est encore en vie aujourd'hui ?
Je ne sais pas.
Elle est partie d'Espagne. Elle a déménagé ou comment ça s'est
passé ? Oui. Donc elle était en Espagne avec nous. Puis nous, en 2003, quand il y a eu les problèmes en Espagne, la crise et tout ça, on est retourné vivre en Belgique. Pardon. Et 3 mois après, elle est arrivée en Belgique. Ce qui était un peu bizarre aussi pour moi, mais bon, je ne me posais toujours pas de questions. Quoi, hein. Elle est revenue en Belgique, et ça, c'est en 2003. Et moi, j'ai appris la vérité en 2006.
Oui.
Voilà. Donc, entre 2003 et 2006, est-ce qu'ils se sont vus ? Oui, sûrement, parce que bon, ben, j'ai lu les mails et
Il y a de grandes chances.
Pardon ?
Il y a de grandes chances.
Oui, il y a de grandes chances qu'ils se sont vus, puisque apparemment, d'après elle, un jour à mon anniversaire, elle m'a dit que ça faisait quand même 7 ans qu'elle couchait avec mon mari. On était en 2009, donc ça a dû commencer en 2002. Enfin, j'ai toutes les dates en tête. Hein. Mais oui, ils étaient toujours ensemble. Je pense qu'ils se voyaient toujours. Bon, lui, il avait son boulot, moi, j'avais le mien. Donc, on ne se voyait pas la journée. Il était libre de faire ce qu'il voulait. Donc, oui, je suppose qu'ils sont restés ensemble. Je sais qu'ils sont partis dans un autre pays ensemble pour une journée, pour aller s'amuser. Parce que j'ai vu les relevés téléphoniques et ça se passait en Hollande. J'ai demandé qu'est-ce qu'il avait été faire en Hollande. Il m'a dit qu'il avait été chercher des chaises parce qu'il travaillait dans une école. Mmh. Enfin, il mentait comme un arracheur de dents. Je ne sais même pas comment on arrive à mentir comme ça. Et le pire dans l'histoire, c'est qu'il ne supportait pas ma mère quand il l'a rencontrée au début. Parce que c'est une femme qui, je vous dis, montait les montagnes les unes contre les autres, qui faisait beaucoup de bruit, assez autoritaire. Il ne la supportait pas. Donc, comme quoi,
c'est,
quand un homme
dingue,
vous dit qu'il ne supporte
dingue.
Pas une autre femme, oui.
Oui, il faut faire attention.
Voilà, ce n'est pas toujours évangile.
Non.
Mais ça a été très dur. J'ai mis 7-8 ans à m'en remettre. Maintenant, j'en parle, ça ne me dérange pas, je peux en parler sans pleurer. Mais il y a des problèmes psy derrière, hein. C'est des gros problèmes dans ma tête. Maintenant, je vous dis, je vais beaucoup mieux. Mais je suis repartie vivre en Espagne, en fait. Donc, quand j'ai connu mon mari actuel...
Qui est espagnol ou qui est belge ?
Non, qui est belge. On s'est connus donc en Belgique, 2 ans après ma séparation avec l'autre.
Oui.
Et au bout de 2 ans, je pense, à peu près, c'est lui qui m'a dit « Mais qu'est-ce qu'on fait ici ? T'as pas envie qu'on retourne vivre en Espagne ?» Et voilà, on est parti, on est venu vivre en Espagne. Et il fait toutes les semaines, il prend l'avion pour aller travailler en France ou en Belgique et il revient tous les week-ends à la maison pour moi. Donc,
alors,
mais il m'a fallu des années pour croire qu'il m'aimait.
Alors on va voir justement quel impact cela a eu sur vous, toute cette histoire. Comment vous avez réussi à croire à nouveau à l'amour. Et puis on verra après l'info qui arrive sur Europe, on verra comment l'entourage réagit lorsque vous dites que vous n'avez plus de mère, en tout cas que vous l'avez totalement rejetée. Vous restez avec moi, Brigitte. On se retrouve après l'info, d'accord ? À tout de suite.
Oui, à tout de suite.
Minuit passé de 6 minutes, vous êtes sur Europe 1. Et si vous nous rejoignez à peine, eh bien, sachez que vous êtes sur la libre antenne d'Europe 1 et que nous voyagerons encore jusqu'à 1h du matin ensemble et que vous pouvez toujours appeler le 39-21, 50 centimes d'euros la minute, ou nous écrire comme vous le faites nombreux et nombreuses ce soir au 739-21, suivi du mot nuit écrit en lettres majuscules, suivi d'un espace. Nous sommes avec Brigitte qui nous explique la relation plus que tordue avec sa mère qui a entretenu une liaison avec son ex-mari. Brigitte, nous en étions Nous en étions à l'étape de l'amour qui revient dans votre vie, avec tout de même des difficultés pour croire à cet amour. Ça s'est passé par où exactement pour que vous croyiez à nouveau à l'amour ?
Par beaucoup de mauvaises choses au départ. Mais c'est bon, vu que j'étais restée 2 ans toute seule, donc j'ai rencontré cette personne qui est tout à fait à l'opposé de mon ex-mari, qui me faisait beaucoup rire, beaucoup, enfin on s'amusait bien, on avait beaucoup de complicité. Donc on s'est très, très vite mis ensemble, vivre ensemble. Mais voilà, les problèmes ont fait que quand vous vivez avec quelqu'un qui vous ment tout le temps, je parle de mon ex-mari, qui vous raconte tout le temps des histoires, que vous vous en doutez, que vous regardez, enfin, qui vous regarde toujours dans le coin de l'œil, qui, quand le GSM sonne, qui s'en va dans le jardin, qui passe des heures sur le WC avec son GSM, vous savez, vous vous posez beaucoup de questions. Vous ne pouvez pas regarder le GSM, il n'y a jamais un GSM qui traîne. Ben voilà, j'ai commencé en fait à reproduire avec la personne avec qui je suis mariée maintenant les mêmes défauts que j'avais avec mon ex-mari. C'est-à-dire qu'on se pose tout le temps des questions, on regarde, on épie, on essaye de savoir, on se méfie de tout, on ne croit en rien. Tout ce que l'autre dit, ben c'est mensonge. Quand il vous dit qu'il vous aime, non, parce que personne ne m'aime, parce que à partir du moment où une mère peut vous faire ça, ben c'est le pire qui puisse exister. Donc si votre mère est capable de vous faire ça, qui d'autre va vous aimer ? Personne.
Oui, oui.
Je veux dire, voilà, on se pose des tas de questions. On n'a pas confiance. Donc le fait de ne pas avoir confiance, ben tout le monde le sait, ça amène de gros problèmes. Donc qu'est-ce qui s'est passé ? Ben au bout d'un an et demi, on s'est séparés. On s'est séparés et il est parti. Et voilà, au bout de 3 jours, on s'est rendu compte que c'était pas la solution. Donc, je lui ai dit de revenir. Mais c'était pas simple. Je veux dire, lui, il a dû mordre sur sa chic parce que bon, mon ex-mari était toujours présent.
Oui, et on lui, est resté... lui voyage en plus. Il vous a sans doute fallu prendre sur vous les fois où il partait.
À l'époque, oui, non. Ah, oui, voilà. Mais à l'époque, pas. Parce qu'on vivait en Belgique. Et oui. Lui travaillait en Belgique et moi je travaillais en Belgique.
Ah oui, d'accord.
Mais il y avait, on était trois. On était trois dans ce ménage parce qu'il y avait toujours mon ex-mari qui était là, avec qui j'étais restée entre guillemets amie. Je sais que les gens vont pas comprendre. Et c'est normal. C'est normal parce que maintenant avec le recul, je me dis aussi, j'ai dû faire vivre un enfer à mon mari actuel.
Mais oui, donc, parce que quand même, il vous en a fait. Enfin, c'est une trahison que cet homme se mette avec votre
oui.
mère. C'est une trahison. Enfin, c'est pour moi c'est une des ultimes trahisons. C'est que
ben, c'est la pire.
C'est la pire. Avec votre fille ou avec votre mère. C'est
Oui, non, parce qu'à partir du moment où votre ex-mari, enfin, où votre mari connaît votre vie, sait que votre mère vous a fait souffrir toute votre vie depuis l'âge de 4 ans.
Qu'il sait ce qu'elle a fait de sa vie en plus, hein, parce que sans
ouais.
critiquer les femmes qui font ce boulot, c'est tout de même très particulier.
Mais, oui, en fait, ce boulot, moi je peux le comprendre, une femme qui va faire ça parce qu'elle doit nourrir ses enfants. Et qui finit par faire ça pour nourrir ses enfants.
Ça n'était
voilà.
pas le cas, Brigitte.
Pas du tout, pas du tout.
Pas du
Ma
tout.
Mère, elle a fait ça par.
C'était vénal.
Par envie de le faire, quoi. Ouais, vénal.
Oui.
Voilà, c'est
oui,
tout.
Sans doute
uniquement
pour l'argent.
Bah oui.
Oui. Et là,
donc,
c'est pas
y a
du
pas
tout
d'excuse.
La même.
Non. Il n'y a pas d'excuse à partir de ce moment-là.
Après,
parce
chacun
que
fait ce qui lui plaît. Hein. On n'est pas là pour juger. Mais ce que je veux dire, c'est que votre mari, sachant ça, il y a vraiment un défaut de moralité de la part de cet homme. Et donc, du coup, c'est vrai que c'est très étonnant que vous soyez resté ami avec lui. Comment vous le voyez avec du recul, ça ?
Mal. Bon, maintenant, il est décédé. Ça fait 7-8 ans qu'il est décédé. Mais j'ai été à son enterrement. J'étais là à son enterrement et j'ai pleuré. Et mon mari actuel était là aussi.
Mmh.
Je veux dire... Je ne sais pas vous expliquer. Je ne saurais jamais expliquer pourquoi j'ai continué à avoir des relations amicales, hein, absolument rien d'autre, parce qu'à partir du moment où j'ai dit en 2008, c'est fini, tu t'en vas, que je suis restée 2 ans toute seule, il ne s'est plus jamais rien passé, même après. Mais voilà, on se parlait, et si le jour où mon mari actuel et moi on s'est séparés, c'est à lui que j'ai téléphoné pour savoir comment je devais réagir.
Oui.
C'était devenu...
Un compagnon.
En fait, moi, je suis...
Un compagnon.
Comment vous expliquer ça ? Je ne peux pas en vouloir à des gens qui m'ont aidé.
Oui,
voilà.
Il vous a accompagné une partie de votre vie. Vous deviez connaître finalement sa nature profonde à lui. Et peut-être que c'était un bon mec, dans le fond.
Voilà. En dehors de son problème d'aller voir ailleurs et d'être un coureur de jupons, c'était un homme qui était charmant, qui était gentil, qui était attentionné, qui m'a appris énormément de choses. J'ai eu une belle vie. On est restés 15 ans ensemble. Mmh. On s'est bien amusé. On est parti vivre en République dominicaine. On est revenu. On est parti vivre en Espagne. Je veux dire, on a fait plein de choses. Et moi, je ne peux pas en vouloir aux gens qui m'ont apporté quelque chose de bien dans ma vie. Parce que lui a fait plus pour moi en 15 ans que mon père et ma mère. Donc, en fait, après tout ce qui s'est passé, je suis comme ça, mais je suis comme ça avec tout le monde. Quelqu'un qui m'apporte du bonheur à un certain moment dans ma vie, même si on se dispute, je ne peux pas rejeter cette personne. J'ai toujours du respect pour cette personne.
Oui, je comprends.
Et c'est ce que j'ai eu pour lui. Malgré que c'était terminé, qu'il n'y aurait plus jamais rien, et que j'allais me remarier, c'était mon oreille, c'était mon confident. Quand j'allais pas bien, ben je lui téléphonais. Voilà. Et puis bon, voilà, il est décédé. Après son décès, ben, on a décidé de partir vivre en Espagne. Donc, mais entre le temps qu'on a vécu en Belgique, donc quand même pendant 2 ans avec mon mari actuel, le pauvre, il en a pris. Il en a pris beaucoup. Il a dû supporter énormément. Ben oui, jusqu'au jour où il a dit « c'est bon, je claque la porte et je m'en vais. Et quand tu iras mieux, tu m'appelles. » Mais je faisais des dépressions pour tout. J'étais mal avec tout le monde. C'était très compliqué. C'est très dur à vivre. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui sont dans mon cas. Et j'aimerais bien avoir des gens qui témoignent, je suppose, et j'espère, je vous dis qu'il n'y en a pas beaucoup dans mon cas. Mais ce serait bien de rencontrer ou de parler par Internet avec quelqu'un qui a connu la même chose que moi, que ce soit homme ou femme, hein, parce que ça peut arriver dans l'autre sens aussi. Hein.
Bien sûr.
Une femme qui couche avec le père.
Lulu au 739-21 vous dit que vous avez une belle âme. Et ça doit être ça. Ça doit être ça.
Je ne sais pas. Mais bon, par contre, ma mère, je ne veux plus en entendre parler.
Mais non, mais vous avez
ça,
raison.
C'est terminé. Parce que je me souviens, je suis passée chez Faustine, que vous connaissez sûrement.
Oui.
Et elle me demandait, sa question, c'était à qui j'en voulais le plus, à mon mari ou à ma mère. Et je lui ai répondu à ma mère. Et elle me dit pourquoi. Je lui ai dit, elle a été très choquée de ma réponse parce que je me souviens, je lui ai dit, un homme, ça reste un homme. Et elle m'a regardée, elle m'a dit comment ça. Je dis oui, voilà, c'est un homme. On sait que les hommes sont pris des fois par leurs pulsions. Est-ce qu'il a trouvé quelque chose en ma mère qu'il n'a pas trouvé chez moi ? Je n'en sais rien. Qu'il a été attiré par elle pour certaines choses ? Je n'en sais rien non plus. Mais une mère n'a pas le droit de faire ça à son enfant. Je veux dire, c'est ça ma question. Je ne comprendrai jamais comment une mère peut faire ça à son enfant.
Non, mais vous avez raison, c'est incompréhensible.
Donc, elle, je ne pourrai jamais lui pardonner ce qu'elle a fait, jamais.
Alors,
et je pense que...
Justement,
oui.
Comment est-ce pris par
voilà.
votre entourage, en fait ?
Bon, les gens qui me connaissent, qui sont proches, ça va. Mais quand... c'est un sujet très tabou. Quand quelqu'un vous dit « Tiens, ta mère » ou « Si ou là » et que vous dites « Moi, ma mère, elle peut, enfin, vulgairement dit, elle peut crever. » C'est comme ça que je le dis. « Ma mère peut crever. » Là, les gens sont choqués. Les gens ne comprennent pas comment vous pouvez parler comme ça de votre mère. Et alors, la fameuse phrase qu'on entend à tout va, c'est « Une mère, on n'en a qu'une. »
Oui.
« Il faut s'en occuper. » Mais non, je suis désolée. Je suis désolée. Oui, une mère, on n'en a qu'une. Moi, la mienne, elle m'a juste mis au monde. Hein, et après, elle a passé sa vie à me détruire. Donc, oui, oui. Pourquoi est-ce que moi, je lui devrais quelque chose? Pourquoi je devrais parler d'elle en bien? Je n'ai rien, rien à dire d'elle en bien. Donc, voilà. C'est un sujet, mais qui est encore extrêmement tabou, hein, partout. Quand vous dites à quelqu'un que vous n'aimez pas votre mère ou que vous ne voulez pas la voir ou que tout ce qui vous intéresse, c'est de savoir qu'un jour, vous recevez un courrier d'un notaire qui vous dit qu'on vient d'enterrer votre mère, les gens ne comprennent pas. Par contre, moi, je ne comprends pas comment on peut aimer sa mère.
Mais si, vous comprenez comment on peut aimer sa mère. Vous savez que des gens aiment leur mère et vous savez pourquoi.
Oui, mais il y a des gens qui idolâtrent leur mère et j'ai du mal.
Oui.
Je sais que c'est possible et que ça existe, mais j'ai du mal. Quoi. Quand quelqu'un me raconte « Oh, ma mère, je la prendrai vivre chez moi, je suis là », moi, je regarde ces personnes en me disant « Mais c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. C'est spécial, mais c'est elle qui m'a fait comme ça. Enfin, qui m'a rendue comme ça. »
Oui, oui, mais je comprends, je comprends. Et quoi qu'il arrive, quoi qu'il arrive, de toute façon, vous ne pardonnerez jamais à cette mère, jamais.
Pourtant, on dit, quand vous écoutez les émissions de Faustine et tout ça, même les vôtres et tout ça, on dit qu'il faut pardonner pour pouvoir avancer.
Oui, oui, c'est vrai que on a recueilli la parole de. Mais quand on parle du pardon, vous voyez? Et on recueille alors des gens qui ont pardonné pour évoquer le chemin qu'ils ont parcouru et comment ils ont réussi à pardonner. Ce qui ne veut pas dire que le message de ces émissions dit qu'il faut pardonner obligatoirement. Tout le monde n'est pas capable de pardonner. Et puis, il y a des actes pour qu'ils soient pardonnés. Tout dépend de la nature de celle qui a été blessée, de celui qui a reçu ses coups à répétition. Vous voyez, il n'y a pas de morale dans ces émissions. Je veux dire, je pense que quand Faustine fait une émission sur le pardon, elle fait comme moi. Elle fait témoigner des gens qui ont su pardonner. Mais ça ne veut pas dire que ceux qui n'arrivent pas à pardonner sont mauvais et ils ne sont pas bien. Dans cette parole qui est donnée dans ces émissions de gens qui ont su pardonner, on peut constater combien ils se sont allégés de la colère, de la haine parfois, de tout un tas de choses qui empoisonnaient leur vie. Mais après, peut-être, je dirais que dans votre cas, vous avez choisi l'ignorance, le rejet, et que cette mère... n'existe plus pour vous, mais je vous dirais qu'elle existe encore, puisque cela vous fait du mal.
Bien sûr.
Je pense que le jour où vous aurez fait le chemin nécessaire qui vous mènera à un espace de pensée où elle ne sera plus du tout dedans, vous aurez gagné.
C'est pas possible. Et je vais vous dire pourquoi. Quand c'est la fête des mères, vous pensez à qui ? À votre mère ? Moi, je sais le parfum que ma mère mettait, je sais ce qu'elle aime manger, je sais la voiture qu'elle aime, je connais ses goûts musicaux, je connais tout de ma mère. Et tous les jours, il y a quelque chose qui me fait penser à elle, tous les jours. C'est bête, mais tous les jours, je pense à elle. En bien, hein, pas à me dire, oh la pauvre, qu'est-ce qu'elle devient, qu'est-ce que si, parce que bon, maintenant, elle doit quand même avoir 78 ans. 77, quelque chose comme ça, puisqu'elle a 20 ans de plus que moi. Mais vous ne savez pas faire autrement. Au fait de fin d'année, quand les gens s'embrassent et avec leur mère, ou quand vous voyez un bête feuilleton à la télévision d'une fille qui va en ville faire des courses avec sa maman. Vous vous dites, vous, pourquoi moi, je n'ai pas eu ça? Moi, je n'ai pas eu une maman comme ça, je n'ai pas eu ci,
Carlotta, c'est très compliqué. Carlotta, au 739-21, vous soumet une idée. Elle vous dit... Elle pense que votre mère, comme vous venez de le dire, continue à grignoter votre vie et qu'il serait peut-être bon pour vous de lui dire ce que nous entendons ce soir, de lui de lui dire une bonne fois pour toutes tout le mal qu'elle vous a fait. Et lui écrire simplement que vous vous vidiez de ça, vous voyez, que vous déposiez ça.
Vous lui avez dit déjà. Mais j'ai fait un livre. En fait, les psys m'ont conseillé d'écrire. Et j'ai écrit. Mais bon, personne ne veut le publier parce que je suppose que c'est pas une histoire qui intéresse. Enfin, c'est une histoire qui intéresse personne. Donc il est là. Il est dans mon ordinateur. Il est fait. Et je m'étais dit, si j'arrive à le publier, je lui enverrai un exemplaire de mon bouquin. Parce qu'elle verra la souffrance. Que le mal qu'elle a fait derrière elle et la souffrance qu'elle a laissée.
Et vous savez, vous pouvez le publier sur Internet, hein, déjà. Hein. Aujourd'hui, ça se fait beaucoup.
Mais j'ai cherché, j'ai envoyé à une maison d'édition qui m'ont dit non, que si je voulais publier, je devais le faire moi-même et je devais imprimer mon livre moi-même et le mettre en page moi-même. Enfin. Et c'est pas ça que j'aurais voulu. J'aurais voulu, à la limite, avec ce livre, que quelqu'un me contacte en disant « voilà, l'histoire en elle-même m'intéresse, mais il y a des choses à changer ou écrire d'une autre façon ». Parce que bon, je suis pas non plus... Enfin, je suis pas écrivain, c'est pas mon métier, donc... Quelqu'un qui m'aide à faire de ce livre quelque chose de bien, que je pourrais lui envoyer ou aller lui mettre dans sa boîte aux lettres et lui dire « Tiens, regarde et lis ce que tu as fait. Essaye de voir un petit peu, t'as 78 ans, ben les 78, enfin non, les 58 années, 57 années de ma vie que tu as gâchées. Et essaye, t'as tout le temps maintenant de pouvoir lire ce bouquin, ben lis-le. » Mais lui écrire, je ne pourrais pas. Je ne pourrais pas lui écrire. Ou alors c'est parce que j'ai pas encore assez de recul par rapport à ce qui s'est passé, mais qu'est-ce que vous voulez que je lui écrive? Qu'elle m'a fait du mal? Vous croyez pas qu'elle le sait? Quelque part au fond d'elle, maintenant.
Oui, mais elle le sait, bien sûr qu'elle doit le savoir, mais vu comme vous me la décrivez, elle n'a aucun remords du mal qu'elle vous a fait,
puisqu'elle
vous a dit tout un tas de saloperies, elle a continué à vous...
Oui.
Hein, donc elle n'a aucun regret. J.C. de Tours n'a pas tout à fait...
Alors pourquoi lui écrire? Pour la culpabiliser?
Au 739-21, oui. J.C. de Tours n'a pas tout à fait compris le message que nous livrons ce soir. Le pardon existe bien, J.C. Nous n'avons jamais dit le contraire. Nous parlons de l'incapacité de Brigitte à pardonner ce soir. Elle ne peut pas...
Je pense que tout ne se pardonne pas. Hein. Tout n'est pas pardonnable non plus. Hein.
Tout dépend de la personne qui est en capacité de s'expliquer les choses. Peut-être vous manque-t-il des cartes dans ce jeu là, en fait, et notamment l'enfance de votre mère, ce qu'elle a vécu. Je pense que si vous appreniez qu'elle a eu, je ne sais pas, qu'elle a été abusée quand elle était petite, qu'elle a vécu de la violence avec les hommes, tout un tas de choses. Peut-être cela vous aiderait à comprendre les contours psychologiques de cette mère. Mais je ne sais pas, j'avance ça, pour l'instant, ce qu'elle vous a fait, vous n'êtes pas en capacité de le pardonner. Et je le comprends parfaitement. Et beaucoup
ce soir... Si j'avais eu une mère normale, entre guillemets, qui ne m'avait jamais abandonnée à 4 ans, qui s'était occupée de moi dans la vie, qui avait fait de moi... Parce que, vous savez, ma mère, elle ne sait même pas les maladies que j'ai faites en étant enfant. Elle ne sait pas si j'ai fait des études. Elle ne sait pas quelles études. Elle ne sait rien de moi. Ne lui demandez pas si j'ai été vaccinée contre ça ou ça. Elle n'en sait rien. Donc ça, ce n'est pas une mère pour moi. Et si elle avait été cette mère-là, qui pouvait répondre à mes questions... quand je lui pose, et qu'à la limite, à un certain âge, voilà, il se passe ce qui se passe avec mon mari, peut-être que j'aurais pu lui pardonner son geste, si elle avait été une bonne mère avant. Mais comme elle n'a jamais été une bonne mère, qu'elle ne m'a jamais fait du bien, qu'elle ne m'a jamais apporté du bonheur, pourquoi est-ce que maintenant, en plus, on va dire la cerise sur le gâteau, elle me fait
vous
ça,
auriez,
j'irais lui
ça.
Pardonner.
Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Je ne suis pas en train de vous dire ça, hein, Brigitte, vous
comprenez. Non, je sais bien. C'est par rapport à la personne qui vous a envoyé un message pour le pardon.
Oui.
Je pense que tout n'est pas pardonnable et ça dépend encore, comme on dit, de la personne à qui vous devez pardonner, ce qu'elle vous a fait vivre.
Exactement.
Moi, j'ai pu pardonner. Voilà, la différence, ben, cette personne pourra peut-être le comprendre. J'ai pu pardonner à mon ex-mari, entre guillemets. Pourquoi ? Parce que les 15 années que j'ai passées avec lui, même s'il a été voir ailleurs, qu'il m'a trompé, il ne m'a jamais frappé, il ne m'a jamais engueulé, il a toujours été correct, gentil avec moi. Oui, j'ai pu lui pardonner, entre guillemets, ce qu'il a fait. Parce qu'il m'a apporté autre chose que ce jour-là malheureux, si je puis dire. Mmh. Mais ma mère, elle m'a jamais rien apporté. Pourquoi est-ce que j'irais encore lui pardonner? Et c'est ça, vous voyez que le problème, c'est très tabou. Hein.
Et les gens comprennent je dois pas, vous dire hein. que 739-21, il y a peu de gens qui sont pour cette option de pardonner. La plupart des personnes qui nous écrivent ce soir comprennent parfaitement pourquoi vous n'avez pas envie de pardonner.
Oui, je ne pourrais jamais. Même, je pense, et je l'ai dit à mon mari maintenant, si un jour on me téléphone en me disant « Écoute, il faut que tu viennes parce que ta mère est mourante, elle va mourir », je n'irai pas. Je n'irai pas. Par contre, je pense que le jour où je vais apprendre qu'elle sera morte, je vais pleurer.
Mmh.
Les gens ne vont peut-être pas comprendre, mais je pense que ça va me faire du mal
oui.
parce que je vais me dire « Quel gâchis !» C'est juste ça, quel gâchis. J'ai eu une mère qui n'a pas été capable d'aimer sa fille, qui a passé sa vie à lui faire du mal, et voilà. Maintenant, elle est morte, elle est partie. Et qu'est-ce qu'on a eu comme vie à nous deux? Rien. On n'a pas eu de vie à nous deux. Et pour ça, je vais pleurer, parce que je vais trouver que c'est un très grand gâchis.
Oui, bien sûr.
C'est tout.
Bien
Mais
sûr.
Je pense qu'une fois qu'elle sera dans le trou, comme on dit, je vais l'oublier. Je ne sais pas, peut-être que ça va terminer, fermer cette parenthèse, fermer cette page. Quoique, maintenant, je suis heureuse dans ma vie. Hein. J'ai encore des problèmes psychologiques, il ne faut pas croire. Je pense qu'on ne se remet jamais d'une histoire comme ça. On vit avec et on doit vivre avec et il faut avancer. Mais je ne veux plus faire souffrir mon mari actuel comme les deux premières années que je l'ai fait souffrir et qu'il nous a pratiquement séparés. Je veux avancer, je veux continuer. Et voilà, j'espère que ça va aller. J'espère que si un jour j'arrive à publier ce livre, ben ça pourra m'aider aussi à faire encore un pas en avant. Mais je vais beaucoup mieux.
Oui.
Ben, et c'est ça que je voulais faire passer un peu comme message aussi. Mm-hmm. Si quelqu'un a vécu ce que j'ai vécu, il y a moyen de s'en sortir.
C'est
très, très dur. Hein.
Vous voyez un psy pour tout ça? Vous cheminez un peu
non.
pour vous devriez quand même
non.
essayer de...
J'ai vu, hein. Non, j'ai vu... À partir du jour où j'ai appris l'histoire en 2006 jusqu'en 2008 à peu près, pendant 2 ans, j'ai été voir des psys, des psychologues, des psychiatres, des sexologues. J'ai vu des gens qui font des médecines naturelles pour essayer de comprendre. Tous les psys que j'ai vus, quand je leur disais pourquoi j'étais là, donc parce qu'en fait ma mère était la maîtresse de mon mari, ils me regardaient l'air de comme si c'était la première fois qu'ils entendaient ça. Et ils m'ont dit, c'est pas courant, évidemment. C'est pas tous les jours qu'on voit ça, mais ça arrive. Mais ils n'ont pas tous les jours ce genre de clientèle, heureusement d'ailleurs.
Mm-hmm.
Mais il faut savoir une chose, c'est qu'à partir du moment où j'ai rencontré mon mari maintenant, après avoir vécu la première séparation, oui, je voyais encore des psys à ce moment-là. Mais les psys, ils sont là que pour vous dire... Qu'est-ce qui s'est passé avec votre mère, toute votre enfance? Il vous remue tout. Et vous ne faites que remuer, et c'est comme si vous remuez toujours dans la même casserole. Et vous ne sortez pas de là. Vous sortez de là, vous êtes de nouveau plus bas que terre. Donc il vous faut de nouveau quelques jours avant de vous remettre, et c'est déjà le 15 jours après où il faut retourner voir le psy. On ne fait que parler de ça. Il y a un moment pour avancer, il faut arrêter d'en parler. Ici, j'en parle parce que, voilà, je me dis, ça va être une des dernières fois où je vais en parler, parce que sinon, je n'en parle plus jamais, même plus autour de moi. Mais je suis devenue... Ça m'a rendu quelqu'un de très associable. C'est pour ça que je vous disais au début, je vis entre mer et montagne. Dans ma montagne, j'ai 3 voisins autour de moi. On se dit bonjour, au revoir, mais j'évite de parler avec les gens. Je n'ai qu'une amie qui vient tous les ans chez moi en vacances, ici, que j'adore. C'est une amie que j'ai depuis que j'ai 14 ans, donc ça fait maintenant 44 ans qu'on se connaît.
Mmh.
Elle connaît très bien ma mère, donc elle sait très bien le phénomène. Et c'est ma seule amie, c'est la seule personne que j'ai. À part ça, je n'ai besoin de voir personne, je n'ai besoin d'entendre personne, je veux dire, ça ne m'intéresse pas. Les problèmes des autres à côté, pour moi, me paraissent dérisoires quand je vois qu'on peut se plaindre d'un petit bobo ou d'un petit truc. Je veux dire, il y a des trucs beaucoup plus graves dans la vie qui vous détruisent beaucoup plus que des petites conneries que j'entends, quoi.
Mais oui, mais vous savez, chacun à son niveau vit ses problèmes comme il les entend.
Oui.
Hein, c'est,
oui,
c'est sûr que vous avez été servi. Ça, c'est clair.
Oui. J'ai été servie et maintenant, ben voilà, je vis pour mon mari, je vis pour mon fils, pour mes petits-enfants, pour mon ami qui vient me voir tous les ans et j'ai envie de voir qui j'ai envie de voir. Je ne vois pas qui j'ai pas envie de voir. J'ai plus envie de me laisser ennuyer par les autres.
Bah, écoutez,
on m'a fait trop de mal.
En tout cas, j'espère que vous arriverez à publier ce livre. Hein. J'espère que vous arriverez à mettre cette histoire au grand jour, encore plus au grand jour. Et pour ça, vraiment, bah, je lance un appel ce soir, si des éditeurs nous écoutent. Ça vaut tout de même le coup de faire ce livre et de parler de cette histoire qui est tout de même assez unique en son genre. Parce que c'est la première fois que j'entends une relation comme celle-là. C'est la première fois, oui. C'est la première fois que j'entends l'histoire d'une mère qui trompe sa fille avec son mari. C'est quelque chose.
Mais il n'y en a pas, vous savez, il n'y en a pas beaucoup, d'où mon témoignage de ce soir. Moi, j'ai vécu ça toute seule. Et j'aurais bien aimé à l'époque quelqu'un qui m'ouvre sa porte et qui me dise « Viens Brigitte, je vais t'aider parce que moi, je l'ai vécu ». Vous savez, on n'est jamais mieux servi que par les personnes qui ont vécu la même chose que vous. Hein. C'est comme une femme qui va accoucher, qui va dire « Tant que tu n'as pas accouché, tu ne sais pas ce que c'est hein, que d'accoucher ben, ». C'est vrai, hein. Je veux dire, moi, si j'avais pu trouver une main tendue à l'époque qui m'aurait dit « Viens Brigitte, moi j'ai vécu la même chose avec ma mère et voilà ce que j'ai fait et voilà comment je m'en suis sortie », ça aurait été merveilleux. Mais moi, j'ai trouvé personne, j'ai dû me débrouiller toute seule, j'ai dû aller contre mes démons. Bon, il faut savoir une chose, c'est que moi je fais des cauchemars réguliers, mais de terribles cauchemars. Et qu'à l'époque, enfin, je ne sais pas si vous avez encore le temps, là, deux minutes, hein, parce que moi je prends toute la parole ici. Mais à l'époque, avant de savoir ce qui s'était passé, toutes les nuits, à 4 heures du matin, j'avais les yeux grands ouverts et j'allumais la lumière pour voir ce qui se passait. Et en fait, le jour où j'ai appris que mon mari couchait avec ma mère, je n'ai plus jamais été réveillée à 4 heures du matin.
Oui, c'est incroyable.
C'est des trucs, oui, c'est un peu spécial, mais voilà. Moi, je suis, je dis, une traumatisée. Sur certaines choses, il y a des choses qui me font peur. J'ai peur de l'abandon, j'ai peur d'être trompée, j'ai peur du mensonge, j'ai peur des gens.
C'est un peu normal.
J'ai confiance en personne, mais en personne. C'est très difficile. Quand on me voit, en fait, en général, on se dit « qu'est-ce que c'est que ça pour une ?» Parce que je suis très en retrait. Je regarde ce qui se passe, j'écoute ce qui se dit. Mais voilà, et tout ça, je le dois à eux, à mon ex-mari et à ma mère. Ils m'ont rendu comme ça tous les deux. Mmh. Et c'est pas facile à vivre. Hein.
J'espère en tout cas que vous arriverez à vous défaire petit à petit de tout ça, ma chère Brigitte. Merci en tout cas d'avoir appelé sur l'antenne d'Europe 1. Dites-moi.
D'accord. Merci à vous de m'avoir écouté.
Merci.
Une bonne
soirée. Bon courage à vous.
Merci.
Au revoir.
À bientôt peut-être. Au revoir.
À bientôt.